France Inter.
Aujourd'hui, Lynx, une cohabitation fragile, racontée par
Gilles Moine, directeur et cofondateur du Centre Athénas à l'Étoile dans le Jura.
Et Nathan Huvier, biologiste et chargé de recherche au Centre Athénas.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Une ombre rousse tachetée qui marche sans bruit dans la forêt, le lynx boréal vit là, tout près, dans les plis du Jura, dans les Alpes, dans ces massifs que nous traversons sans imaginer qu'un grand félin nous observe peut-être depuis la lisière. Pendant des siècles, il a partagé nos forêts, puis il a disparu, traqué et effacé du paysage français au XIXe siècle. Son retour dans les années 70 ressemble à une seconde chance. Quelques individus ont été réintroduits en Suisse, sont parvenus à franchir la frontière pour recoloniser discrètement les montagnes françaises. Une renaissance fragile, presque clandestine. Aujourd'hui, il ne serait plus qu'une centaine sur tout le territoire jurassien. Un animal solitaire dans une population elle-même isolée. Les routes découpent son domaine, les collisions se multiplient, la diversité génétique s'effondre. Les biologistes parlent d'un compte à rebours silencieux car sans nouveaux échanges, sans continuité forestière, la disparition du lynx pourrait recommencer. Et pourtant, dans des centres de soins, des équipes veillent, des lynx blessés ou orphelins affamés sont recueillis. Ils réapprennent à chasser, grandissent sous le regard discret de soigneurs qui s'effacent pour qu'ils restent sauvages. Chaque individu relâché devient une tentative de réparer un fil rompu entre l'animal et son territoire. Mais le temps est compté. Le lynx boréal pose une question simple et vertigineuse à la fois. Avons-nous encore une place pour le sauvage dans nos paysages? Pas dans des réserves lointaines, mais ici, dans nos forêts. La présence du lynx ne fait presque pas de bruit, mais sa disparition, elle, serait un immense silence. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Il y a quelques jours, une femelle lynx a été caillassée et gravement blessée dans l'Ain. Incapable de se nourrir, très amaigrie, l'examen vétérinaire a révélé plusieurs blessures par balle, dont l'une lui a crevé l'œil gauche. Malgré les soins procurés, elle n'a pas survécu. Ses petits abandonnés sont condamnés s'ils ne sont pas retrouvés rapidement. Il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un cas isolé, mais ces actes scandaleux ne font jamais l'objet de poursuites dans un pénible climat d'omerta.
À l'Assemblée nationale, c'était le 20 janvier dernier, la voix de la députée Dominique Voynet, Gilles Moine et Nathan Huvier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir fait le voyage depuis le Jura pour parler de lynx. Il y a 15 jours, on apprenait donc qu'une femelle lynx qui était soignée dans votre centre, Athénas, après avoir été blessée dans l'Ain, était décédée. Selon vos informations, cet animal avait donc subi des tirs de chasseurs et avait été caillassé à deux reprises. Elle a donc succombé, Gilles Moine, à ses blessures.
Absolument, ça a été un choc pour nous déjà de faire un diagnostic au moment de la découverte, de la capture, hein, de s'apercevoir qu'elle avait été l'objet d'un tel acharnement. Évidemment, on avait un pronostic très, très réservé dès le départ, et malheureusement, elle a succombé à une méningite qui est elle-même due à l'entrée de plomb dans sa boîte crânienne. Alors effectivement, on était un peu abasourdis, mais en même temps, paradoxalement, satisfait de pouvoir démontrer que ce genre de comportement existe, parce que il est très, très difficile de le mettre en évidence. Souvent, on se fait taxer d'affabulateurs, d'extrémistes. Et en fait, quand on peut mettre en évidence ce comportement, on est plutôt satisfait, surtout que là, on a quand même une bonne chance de voir aboutir une procédure.
Oui, vous avez déposé plainte?
Absolument, on a déposé plainte à la fois pour le caillassage, qui est un acte déjà grave en soi sur cet animal, et puis sur les tirs qui, vraisemblablement, ont été perpétrés par une autre personne.
Ouais. Il y a rarement de poursuites, comme le disait Dominique Voynet, là, dans le son qu'on a entendu.
Oui, c'est rien de le dire. Alors, on a fait un petit décompte avant de venir, et d'ailleurs, on va sans doute publier à ce propos. On a recensé 77 destructions illégales depuis 2020.
Ouais.
Alors, soit directement par la découverte de 18 cadavres, par 8 témoignages également, par un aveu, par surtout la découverte de jeunes orphelins, qui sont la, la partie visible de l'iceberg braconnage, puisque des jeunes absolument en bonne santé, mais seulement amaigris parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller sans leur mère, se retrouvent en détresse et dérivent jusqu'aux habitations pour chercher de la nourriture facile.
Nathan Huvier, donc cette femelle avait deux petits, hein, c'est ça hein?
Oui, exactement.
Ouais. Et donc, ils sont recherchés en ce moment
Oui, c'est ça. On met en œuvre ce qu'on appelle une cellule de veille lynx, où en fait, on recueille tous les témoignages de personnes qui pourraient avoir vu ces jeunes individus dans le secteur où ils sont recherchés, pour pouvoir agir de manière rapide et efficace ouais. sur le terrain.
Comment on essaye de retrouver des lynx? Alors, c'est quoi finalement vos indices et les outils utilisés?
Le premier indice, c'est les appels et les témoignages de personnes qui les croisent de manière inopinée, proche de là où ils habitent, en fait.
Ouais.
Et nous, une fois qu'on a ces appels et ces témoignages, si nécessaire, on se déplace sur le terrain pour pouvoir faire une recherche d'indices de traces, par exemple, ou peut-être, si elle a été vue dans une grange, par exemple, aller faire un tour dans la grange. Après, on fait rarement d'interventions très dirigées ou de battues de forêt.
Mmh.
C'est plus... des enquêtes un peu à distance jusqu'au moment où on arrive à déterminer un endroit où poser une cache-piège qui serait endroit idéal pour pouvoir faire une capture passive.
Ce que vous avez pu faire en l'occurrence avec ces deux petits-là?
Ah bah pour ces deux petits, oui, on a des caches déployées, mais pour le moment, pas de résultat.
Ouais.
Donc on est toujours à la recherche et on attend de nouvelles informations pour savoir s'il faut déplacer les caches ou les maintenir.
Ouais. Gilles Moine, dans quel secteur ils sont alors exactement?
C'est dans le nord de l'Ain, vers ouais. Béarn-Gevrecien. Oui, effectivement, dans ce type de cas, jamais on intervient disons, de façon proactive, mais c'est des moyens de capture passive
ouais.
qui sont disposés en fonction effectivement, des informations les plus récentes qu'on ait.
Vous pensez vraiment pouvoir les retrouver ou pas?
On espère, mais en fait, il y a un tas de paramètres qui influent, les dérangements, la maladie, l'affaiblissement graduel qui est inévitable. Donc, pour l'instant, on croise les doigts, c'est tout ce que l'on peut faire.
Ouais, ils ont quel âge, là?
Là, ils ont 7 mois et demi, 8 mois. On est juste dans la période charnière à laquelle, si la météo le permet, ils peuvent trouver suffisamment de proie pour peut-être survivre.
Ouais.
Pas forcément dans une forme optimale, mais ça peut arriver. Néanmoins, si on a une vague de froid, ils vont se trouver en grande difficulté et là, vont... être à nouveau en risque de mourir.
Qu'est-ce qu'ils arrivent à chasser à cet âge-là?
À cet âge-là, c'est plus souvent des animaux domestiques, des poules, des chats, ça peut arriver, des jeunes lièvres qui peuvent naître assez tôt en saison, mais en tout cas, ils n'ont pas accès aux ongulés ou aux proies plus grosses, telles que le renard qui peut être capturé.
Ils font quelle taille, là, à 7 mois?
À 7 mois, c'est des animaux qui, normalement, devraient faire une dizaine de kilos, mais tous ceux qu'on capture après une période d'affaiblissement, d'isolement, sont en général à une perte de poids de l'ordre de 40%, c'est-à-dire qu'ils sont très très maigres.
Ouais. Et donc, le lynx est braconné en France?
C'est
ce que raconte aussi cette histoire.
Le lynx est braconné en France, oui, effectivement.
Mais dans quel but, en fait?
Dans quel but? En fait, c'est sur un a priori culturel, on va dire. C'est-à-dire que les chasseurs pensent que le lynx amène l'éradication du chevreuil. Ils ne supportent pas l'idée de la concurrence. On sait maintenant, parce qu'il y a des études qui l'ont démontré, que le lynx prélève 10 fois moins que les chasseurs. C'est-à-dire pour 100 hectares, 100 hectares boisés, le prélèvement de la chasse en ACCA, c'est 3,4 chevreuils par an. Le lynx, d'après les études que nous avons menées en faisant du suivi, Nathan pourra le confirmer, c'est 0,3 à 0,4 chevreuils par an.
Mmh.
On pourra aussi parler des a priori que l'on démonte sur le régime alimentaire des lynx en faisant du suivi par GPS. C'est vraiment important justement de désactiver ce réflexe culturel, ces a priori culturels.
La CCA, vous en parlez, ça veut dire quoi exactement?
La CCA, c'est l'association communale de chasse agréée, c'est la structuration des chasseurs en association locale.
Ouais. Gilles Moine, votre centre, donc Athénas, c'est un centre de sauvegarde de la faune sauvage, vous l'avez créé en avril 87. C'est la seule structure en France donc, qui est spécialisée dans l'accueil de félidés comme les lynx. Hein.
Oui, alors en fait, il y a une structure dans le nord Alsace qui est en train de se monter. Pour l'instant, nous sommes la seule spécialisée, puisque nous avons accueilli 117 lynx depuis la création du centre.
Ouais.
Sur ces 117 lynx, tous arrivés en état très dégradé, seulement 33 ont pu être relâchés, et 4 sont en voie de l'être. C'est quand même un pourcentage de l'ordre de 1 sur 3 qui survit et peut accéder au relâché.
Ouais. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces lynx boréales, en particulier Nathan Huvier, alors? Qu'est-ce qui caractérise cet animal?
C'est un animal qui vit exclusivement dans les milieux boisés, un animal assez discret, qui vit sur un territoire assez large, et d'autant plus si c'est un mâle. Et en fait, la particularité qu'il a dans le Jura, c'est que son habitat est fragmenté, beaucoup par les routes, comme vous avez dit dans l'introduction. Et donc, avec une anthropisation du milieu assez intense qui lui cause pas mal de soucis.
C'est des animaux qui se déplacent beaucoup, à l'instar des loups
Alors, par rapport aux loups, non. Ils se déplacent, ils restent vraiment, ils ont un territoire entre 150 et 300 km² sur lequel ils vont se déplacer plus ou moins selon la période de l'année. Mais là, on va rentrer dans une période, la période de rut, où en fait les animaux, pour trouver des partenaires, vont énormément se déplacer en fait, au cœur de leur territoire.
Surtout le mâle. Si on veut schématiser, le lynx est un marcheur, le loup est un trottineur.
C'est ça. Et le loup peut traverser de grands territoires.
Grandes étendues, y compris complètement dépourvues de forêts. Ce qui n'est pas le cas du lynx.
Ouais. On va écouter le cri du lynx, enregistré par le photographe animalier Laurent Gélin. C'était en 2017. C'est donc lui qui a fait cette prise de son en milieu naturel. Là, Gilles Moine, à quoi ça correspond ce cri-là exactement ?
Alors, c'est un cri de contact qu'on entend le plus souvent au moment du rut, c'est-à-dire que le mâle, qui justement se déplace beaucoup pour contacter des femelles, va appeler et attendre une réponse. Alors, ça se passe pas uniquement par l'entremise de la voix, mais également par le dépôt d'odeur, les phéromones. Là, il y a ce qu'on appelle des zones de marquage, des postes de marquage, où la femelle va venir vider ses glandes anales, uriner également, et du coup, elle va pouvoir dire « je ne suis pas encore disponible, mais ça vient ». Ou alors « ça y est, tu peux venir
». Et ça, il peut être entendu sur de longues distances ou pas ?
Alors en fait, avant le rut, il y a la période de pré-rut. Contrairement aux idées reçues, le mâle et la femelle ne vivent pas en apartheid total tout au long de l'année, mais se côtoient de temps à autre. Et en fait, le mâle assure un peu une surveillance discrète de loin en loin de l'état et de la réceptivité de ses femelles.
Donc c'est un animal solitaire quand même, Nathan
Olivier ? Oui, de la majeure partie du temps, c'est un animal qui reste solitaire. Et les femelles, elles, sont accompagnées souvent de ces petits, de mai à avril à peu près, où ils vont quitter leur mère pour aller faire leur propre vie. Mais voilà, sinon, de manière générale, ce sont des animaux qui vivent solitaires et qui se retrouvent dans de rares occasions. Ouais.
Vous avez publié en 2023, Nathan Huvier, avec votre équipe et Gilles Moine, une étude sur la génétique du lynx boréal en France qui montrait justement que le lynx est en train de s'éteindre génétiquement. C'est en raison justement d'une diversité génétique extrêmement faible aujourd'hui ?
Oui, exactement. Donc en fait, on a cette diversité génétique, c'est la chose qui va représenter, si vous voulez, l'individualité de chacun lynx, donc de ce qui le rend unique en fait. Et au fil du temps, dans une population réintroduite, comme c'est le cas avec le lynx en France et en Suisse, cette diversité va diminuer. C'est une chose qui est tout à fait normale pour des populations réintroduites, mais en fait, on va arriver à un point où sans nouvelle réintroduction d'individus et de nouveaux gènes, cette population va finir par s'éteindre à un moment ou à un autre. À cause de cette diversité génétique uniquement.
Et ça, c'est un gros problème dont on reparlera évidemment tout à l'heure avec ce lynx qui a déjà connu une période précisément de disparition. C'était au 19e siècle en France, Gilles Moine, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment en fin du 19e, plus exactement début du 20e pour la totalité du territoire national, mais dans la partie qui nous intéresse, l'arc jurassien et les Alpes, c'est vraiment la fin du 19e.
Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement ? C'est la chasse à l'époque ?
C'est à la fois le résultat de la déforestation qui avait été entreprise dès le Moyen-Âge et de la chasse qui a également été entreprise dès le Moyen-Âge par les louvetiers, en fait, sous l'impulsion de Buffon. Et donc c'est à partir de cette époque que les grands prédateurs, d'une façon générale, ont régressé vers les zones les plus reculées.
Au point d'anéantir totalement l'espèce en France.
Voilà.
Ouais. Et donc il y a eu réintroduction par la Suisse d'abord,
c'est
ça ?
Par la Suisse, oui, à l'initiative de forestiers. Il s'agissait là de disperser les ongulés pour limiter les effets de l'abroutissement, c'est-à-dire du broutage des bourgeons de régénération par les chevreuils. Et ça a été, de fait, une réussite.
Et donc, les lynx ont traversé la frontière.
Les lynx ne connaissent aucune limite administrative.
Ils sont arrivés en France, en quoi ? Les années 70, à peu près,
c'est ça ? Dès la fin des années 70, oui. Ouais.
Aujourd'hui, la population française, ça représente combien d'individus ? On arrive à faire un inventaire ou pas ?
Alors, oui, il y a un inventaire, disons, qui est approximatif, mais qui table sur 200 à 150 individus. Mmh. Ce que l'on sait, c'est qu'environ 150 adultes cantonnés sont sur l'ensemble de l'arc jurassien, Alpes du Nord et les Vosges. Alors, dans les Vosges, il faut rappeler que la population a disparu pour la seconde fois en un siècle, dans les années 90 à 2000, mmh. À la suite d'une réintroduction qui a été menée sur le territoire français et en raison du braconnage.
Ouais.
Donc, les individus qui se trouvent actuellement dans les Vosges sont des individus originaires d'Allemagne, réintroduction dans le Palatinat, et des transfuges du massif jurassien.
Le lynx est donc revenu physiquement dans nos forêts, mais ce retour cache évidemment ce dont on parlait, cette fragilité liée à sa santé génétique. On va en parler dans un instant, et puis nous attendons bien sûr, amis auditeurs et auditrices, vos messages et vos questions sur la page de La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Je guette le lynx. Alors, j'ai assez peu de chance de le voir, mais je suis sur des passages qu'il emprunte de temps en temps. Donc, je me mets à l'affût, je bouge pas, et j'attends son passage. Et puis, si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, ou la semaine prochaine, ou pas. Et j'ai vu en tout quasiment une quinzaine de fois. Mais j'ai mis plus de 30 ans à voir mon premier lynx. Alors, la première fois, j'ai pleuré. Il est là, il est sur sa falaise au pied de son arbre, il nous voit et nous on le voit pas. C'est ça qui me fascine, je crois, chez nous.
Le photographe animalier Julien Arbet, c'était dans un documentaire des racines et des ailes diffusé le 28 janvier dernier. Gilles Moine, vous êtes directeur du centre Athénas à l'Étoile, donc dans le Jura, accompagné de Nathan Huvier, biologiste et chargé de recherche dans ce même centre. Il faut être drôlement patient hein, pour apercevoir le lynx dans son milieu naturel. 30 ans là pour ce photographe.
Oui, alors malheureusement, tous les photographes n'ont pas cette patience, cette éthique.
Ouais.
Quelquefois, certains ont des démarches plus intrusives. On ne peut qu'encourager les photographes comme Julien Arbet à continuer de la sorte.
Ouais. Est-ce que vous l'avez croisé dans la nature, en dehors évidemment des captures ?
Oui, alors beaucoup sur la route. En fait, parce que j'ai une activité qui m'amène à me déplacer beaucoup, y compris de nuit. Donc ça m'est arrivé au total de le voir 11 fois. L'observation la plus mémorable, c'est un mâle en rut qui est passé quasiment à côté de moi sans me calculer, parce qu'il a été gorgé de testostérone.
Et il ne sentait pas autre chose que la femelle.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on croise cet animal? Et vous, Nathan Huvier, vous en avez croisé aussi comme ça?
Ça m'est arrivé une fois, oui.
Une fois
ouais. Uniquement. Ça fait pas longtemps que je suis dans le Jura, mais voilà, ça m'est arrivé. Quand on a eu un signalement, on ne s'entendait pas à voir le lynx, on allait juste pour voir s'il y avait des traces, et puis on l'a croisé à ce moment-là.
Et qu'est-ce qu'on éprouve ?
C'est un peu... C'est choquant dans le bon sens. Au début, on ne s'y attend tellement pas qu'en fait, on est un peu... on ne sait plus trop quoi faire. Et puis après, on profite, et puis ça dure très peu de temps. Donc,
ouais. Et celui que vous avez croisé, vous, est-ce qu'il vous a perçu,
bien vu ? Il nous voit toujours, de toute façon, sinon on le voit, il nous voit, donc... Donc il nous a vus, ça a duré quelques secondes, il est reparti, puis voilà.
Et ça a fait votre année, j'imagine.
Ouais.
Et Gilles Moine, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant ?
C'est pareil, c'est le frisson, hein, c'est une impression de force, de nonchalance. C'est une des formes de l'évolution les plus abouties. Hein. C'est un animal très économe de ses moyens et de ses ressources alimentaires, qui dégage quelque chose. Enfin, peut-être que je me monte la tête, mais en tout cas, c'est ce que je ressens.
Est-ce qu'il y a un danger pour l'humain ou pas du tout ?
Non, absolument pas. Le seul danger qui est pour l'humain, c'est pour les gens qui le soignent. Il nous est arrivé de nous faire mordiller les mains malgré les protections, mais sinon, le lynx choisira toujours la fuite s'il en a la possibilité.
Ouais, donc ça a une bonne mâchoire, c'est ce que vous nous laissez entendre ?
Oui, moins sévère, moins dangereuse que celle des canidés, mais néanmoins, ça a fait des petites perforations.
Ouais. Nathan Huvier, on évoquait donc avec vous tout à l'heure cette étude publiée en 2023 sur l'extinction imminente des lynx, hein. C'est quand même ce que vous nous dites, en raison d'une très faible diversité génétique. Qu'est-ce qu'elle montrait exactement alors cette recherche ?
Alors en fait cette recherche montre que si tout reste en l'état pour la conservation, c'est-à-dire pas de réintroduction, pas de corridor rétabli entre les populations, on va arriver d'ici une trentaine d'années à un point de non-retour où la population malheureusement ne pourra pas vraiment être sauvée. Donc il faudra reprendre en gros depuis le début donc des nouvelles réintroductions avec des nouveaux individus fondateurs qui repartent et qui recréent une nouvelle population.
Donc ça c'est une échéance moyenne quand même hein.
Ben, d'un point de vue génétique et pour une population, oui, 30 ans ça reste relativement court. Ouais. Puis bon, après, voilà, il y a toutes ces contraintes administratives qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en avant il y a déjà bientôt 3 ans. Mm-hmm. Et voilà, on attend de pouvoir accélérer les choses avec ça.
Ça veut dire quoi pour un lynx, justement, cette perte de diversité au sein de sa propre espèce, alors ?
Alors, c'est... Ça ne concerne pas que le lynx, c'est toutes les espèces réintroduites qui ont une perte de diversité génétique. Mais en fait, si vous voulez, il y a des facteurs qui vont accélérer cette perte de diversité génétique, donc la consanguinité, la perte d'individus, que ce soit par des collisions, par du braconnage ou autre, mm-hmm. ça va faire chuter en fait cette diversité génétique au sein des populations et voilà, ça va les rendre beaucoup plus sensibles en fait à des changements environnementaux brutaux. Ça peut causer des maladies héréditaires voilà, qui sont délétères pour l'espèce. Donc, en fait,
ils ont moins de résistance aux maladies ?
C'est pas qu'ils en ont moins, mais si vous voulez, c'est que s'il y a une maladie qui se déclare et qui devient héréditaire, en fait, comme il y a très peu de diversité génétique qui vont contrer cette maladie-là, ben, en fait, elle va se répandre dans la population et ça risque de créer encore plus de dégâts.
Donc ça joue aussi sur la reproduction ?
Exactement.
Et sur la fragilité aussi des plus jeunes ?
Ça peut également. Donc voilà, après, on a toutes ces histoires de consanguinité aussi qui vont... Oui. Voilà, c'est l'accouplement entre individus parentés qui vont diminuer les chances de reproduction. Et puis,
Par exemple, il y a une répétition d'accidents cardiaques qui ont été identifiés en Suisse comme en France, chez nous. Et là, il y a vraiment une suspicion d'un des effets de cette perte de diversité génétique.
Ouais. La mortalité des jeunes est élevée chez les lynx en ce moment en France ?
Alors, globalement, un jeune sur quatre seulement arrive à l'âge adulte.
Et comment on l'explique alors ça ?
C'est la sélection naturelle. C'est pareil chez les mésanges charbonnières.
C'est-à-dire, ça c'est la sélection.
Ça, sélection naturelle. Lorsqu'on a un adulte qui disparaît, c'est toute la portée qui va disparaître, une femelle adulte qui meurt. Et inversement, on a de la surmortalité qui peut se rajouter sur les jeunes à travers les collisions routières, comme le disait Nathan, et puis aussi tout ce qui est environnemental, disons de cause anthropique. Par exemple, toutes les pathologies véhiculées par les félidés domestiques, parvovirose, leucose féline, etc. Donc sur des organismes un peu affaiblis, qui n'ont pas encore une immunité complètement construite, ils sont vraiment très sensibles à ces pathologies.
Ouais. Les collisions routières, c'est la première cause de mortalité chez les lynx ?
C'est la première cause identifiée. Néanmoins, dans d'autres pays d'Europe, ce qui ressort, c'est que le braconnage arrive à peu près à un jeu égal avec les collisions routières, voire au-delà.
Ouais. C'est un animal nocturne ? Principalement ?
Oui, c'est un animal principalement nocturne, pour, à vrai dire, crépusculaire. C'est-à-dire qu'il se déplace au moment où ses espèces proies favorites se déplacent également. Et puis, l'essentiel de son activité, c'est en début et fin de nuit.
Ouais. Pourquoi vouloir absolument réintroduire le lynx ? C'est aussi, Nathan Huvier, la question qu'on peut se poser, finalement. Si le destin de cet animal, aujourd'hui, c'est de disparaître, pourquoi vouloir absolument insister alors ?
C'est une espèce qui était présente chez nous naturellement, donc juste de ce point de vue-là, c'est intéressant de la revoir. Et ensuite, c'est une espèce qu'on dit une espèce parapluie, qui par son effet en fait sur ses proies va avoir un effet sur tout l'ensemble de son écosystème. Donc elle va réguler les populations de chevreuils, avoir ce qu'on appelle un effet d'image de la peur en fait, où elle va disperser les herdes de chevreuils dans les forêts, ce qui va réduire l'abrutissement, comme disait Gilles un peu plus tôt, donc la consommation de buissons et de régénération forestière. Et du coup, en fait, tout ça, ça va permettre d'équilibrer son écosystème et ça va en profiter, en fait, à toutes les espèces qui vivent à l'endroit où le lynx vit.
Donc, si jamais, effectivement, il y a disparition en raison de cette perte génétique, il y aura forcément réintroduction ou ce sera de toute façon discuté ?
Ça, ce sera discuté. Nous, pour la perte de diversité génétique, on a proposé diverses solutions, que ce soit de la réintroduction directe d'individus, la restauration de continuité forestière, il faut que ça se fasse, mais ça prend plus de temps, comme c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais.
Et une des solutions rapides qu'on a trouvées, c'est de l'échange de jeunes orphelins, comme on en récupère beaucoup chaque année, et que d'autres structures en Europe peuvent en récupérer. Ce serait juste d'échanger. Donc nous, on ne gagne pas d'individus, mais on n'en perd pas non plus.
Mais il y a une diversité génétique,
il y a une
du
diversité
coup, qui
génétique
s'enclenche.
Qui s'enclenche à ce moment-là. C'est comme si on connectait des populations, mais artificiellement.
Ouais. Et ça, les animaux le supportent bien, le fait de changer de territoire comme ça.
Disons que les jeunes, les subadultes, au moment où on les relâche, c'est-à-dire à 10-11 mois, ils sont à l'âge d'adaptabilité optimale, c'est-à-dire ils sont capables de supporter un voyage et la découverte d'un nouveau territoire, parce que c'est ce qu'ils font naturellement. Et en l'occurrence, c'est vrai que cet échange, ce serait un coup de boost génétique tout à fait appréciable pour l'espèce.
Et pourquoi on ne le fait pas dès maintenant, alors ?
Alors, nous, c'est une proposition qu'on a faite au service de l'État. On attend la réponse. Alors, donc, on est en cours de plan national d'action lynx. Donc, ça doit être étudié par le conseil scientifique du PNA. Mmh. On espère que la réponse sera favorable, parce que en termes à la fois de, disons, de lourdeur administrative, d'acceptation par la population au sens large, c'est-à-dire qu'on, comme le disait Nathan, on n'augmente pas numériquement la population, on fait juste un échange.
Ouais. Donc, est-ce qu'on considère ça comme de la réintroduction pour autant ou pas ?
Ce serait du renforcement de population,
parce qu'en
fait, on rajoute un individu dans une population déjà existante, dans un milieu qui accueille déjà cette population. Donc, ce serait vraiment gagnant-gagnant que de procéder à ce type d'échange.
Est-ce que les Suisses connaissent exactement la même situation sur la perte de diversité génétique, Nathan Huvier ?
Alors oui, parce que en fait, la population, nous, les échantillons qu'on a eus ADN sont uniquement français, mais en fait, le massif du Jura, la population, c'est la même en France ou en Suisse, il n'y a pas de frontières. Donc voilà, nous, on a juste les échantillons qu'on a pu récolter en France, mais c'est la même chose chez eux.
Et une réintroduction comme l'ont fait justement les Suisses, ça, la France l'a jamais envisagé jusqu'à maintenant ?
Alors, elle l'avait envisagé dans les Vosges, ça a été fait dans les Vosges dans les années 80.
Oui, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Mais plus maintenant, alors pour des raisons à la fois d'acceptation, des raisons de... Et en fait, dès l'instant où on a une espèce qui est réapparue sur le territoire... L'idée est plutôt de miser sur le fait qu'elle colonise naturellement d'autres milieux. Mais là, effectivement, c'est... Une réintroduction ne se justifie pas à l'heure actuelle, mais bien, bel et bien un renforcement de population.
Quand vous parlez d'acceptation, Gilles Moine, ça veut dire quoi ? Alors, au sein des populations humaines, cette fois-ci, quand on parle de lynx, dans le Jura par exemple, comment cet animal est perçu par la population, hors chasseur ?
Oui, alors, de ce qu'on a pu en voir à chaque fois qu'on renouvelle notre demande de dérogation pour capture de jeunes lynx, c'est soumis à questionnement public, à consultation publique, et on a 85% d'opinions très favorables. Donc le reste, c'est des mobilisations... le plus souvent du monde de la chasse et quelquefois de certains syndicats agricoles, notamment syndicats ovin, qui estiment que le lynx n'a pas sa place chez nous. Pour faire un tout petit peu d'histoire, quand le lynx a recolonisé le massif du Jura, il y a eu une montée un peu en flèche des dégâts sur cheptel ovin, qui finalement sont arrivés à un niveau très bas maintenant et qui restent, disons, du domaine de l'anecdotique.
Donc c'est-à-dire qu'il y a eu régulation là aussi ?
Il y a eu, en fait, en phase de colonisation, il y a une phase de découverte du milieu par les lynx, et du coup, il y a eu un développement assez important des dégâts.
Donc une prédation.
Une prédation, oui. Et donc maintenant, ce n'est plus le cas, ça reste à un niveau très bas, c'est de l'ordre de quelques dizaines par an. Mmh. Il y a en outre un bon accompagnement par les services de l'État, avec des aides par exemple, à la prise en charge d'un chien de troupeau, etc., les aides à la protection des élevages. Et du coup, l'acceptation dans le monde agricole est relativement bonne. Mmh. On est vraiment face plutôt à un problème chasse.
Ouais. Est-ce que l'acceptation de la part des éleveurs est différente par rapport à la question du loup, par exemple ?
Oui, complètement. Ouais. Parce que déjà,
on n'est pas sur les mêmes tensions avec le lynx.
On n'est pas sur les mêmes tensions, on n'est pas sur le même niveau de dégâts, on n'est pas sur la même perception aussi. Le lynx capture un individu, quelquefois sans déranger le reste du troupeau. Mmh. Et du coup, on n'a pas tous ces dégâts indirects, ce stress qui...
est généré.
Voilà, qui... on peut le comprendre pour cause de gros soucis aux éleveurs.
Allez, on va voir dans un instant si, effectivement, on pourrait imaginer élargir la présence du lynx en France. Et puis, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré. Gilles Moine et Nathan Huvier, vous êtes nos invités. Vous venez pour nous du Jura.
France Inter. La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Un peu de feulement, hein, c'est ça, Gilles Moine ?
Oui, c'est ça. Oui, là, on a,
c'est vous qui nous avez transmis cet enregistrement.
Exactement.
Donc, on peut le décrire, ce qu'on entend ?
Oui, c'est deux de nos lynx résidents qui se répondaient, un mâle et une femelle. C'était des individus qui avaient été issus d'une saisie pour détention illégale et qui ont tenu le rôle, en tout cas pour la femelle, de super nanny, de coach pour les jeunes qu'on a élevés, donc pendant près de 20 ans. Malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ans.
C'est quoi d'ailleurs l'espérance de vie d'un lynx en moyenne, Nathan Huvier ?
C'est, corrige-moi Gilles, mais je crois que c'est une vingtaine d'années.
Oui, c'est
nature.
Pas mal.
Alors,
c'est,
en captivité, c'est, nous les deux, là, ont survécu 22 ans.
Ce qui est très rare, dans la nature, c'est pas possible.
Dans la nature, la vie est plus dangereuse, donc c'est plutôt de l'ordre de 15 ans, la moyenne étant de 9 ans, parce qu'il y a des mortalités plus précoces chez les jeunes. Mais la, voilà, la longévité moyenne est de 15 ans à peu près.
Donc là, on avait le papy et la mamie en fait en captivité, c'est ça. C'était
c'est
vraiment
ça.
Les grands-parents
exactement.
Là, hein, qui s'occupaient donc des nouvelles générations.
Tout à fait.
Vous êtes, je rappelle, du centre Athénas dans le Jura, la commune de L'Étoile. Vous êtes nos invités pour parler du lynx boréal. Hein. C'est le seul qu'on trouve en France. Le
oui,
boréal,
tout à fait. Oui, oui. Alors, on a le lynx ibérique sur la péninsule ibérique, justement. Ouais. Le bobcat aux États-Unis et le lynx canadien au Canada, pour schématiser.
Vous en recevez combien, justement, au centre Athénas de lynx, chaque année, en tout cas?
Chaque année, accueilli au centre, c'est environ une dizaine d'individus. Ça varie selon les années. Après, des signalements de lynx et des alertes de lynx. Là, j'ai pas les chiffres en tête, peut-être Gilles, tu les as. Mais
oui, c'est une quarantaine d'alertes par an, c'est-à-dire qu'on a des signalements d'individus observés dans des circonstances inhabituelles, et là, on décode la situation pour savoir si on intervient ou pas sur le terrain. Donc, il y a tout un protocole qui est cadré par cette dérogation de capture qu'on a obtenue auprès du ministère. Et donc, on fait valider le cas à chaque fois par l'OFB, notamment, pour savoir si on va intervenir ou pas. Mais c'est une procédure beaucoup plus fluide que si on demandait à chaque fois une dérogation de capture.
Ouais. Et vous n'avez pas que des lynx, hein, d'ailleurs.
Non, le lynx, ça reste une espèce, entre guillemets, anecdotique au centre. C'est voilà, une dizaine d'individus et on récupère toute la faune sauvage métropolitaine.
Ouais.
Donc voilà, avec une majorité d'oiseaux. Et l'espèce la plus recueillie au centre, c'est le hérisson.
Le hérisson et d'autres félins
Oui, en félin, on recueille également le chat forestier, qui est le cousin du chat domestique.
Est-ce qu'on le croise facilement, ça, dans la forêt ou pas?
Alors, j'ai envie de dire plus facilement que le lynx, mais ça reste tout un animal plus petit, mais tout aussi discret, qu'on croise souvent au crépuscule en lisière. En fait, on peut le voir chasser, on a un peu plus de chance.
Est-ce qu'il a les oreilles pointues, lui aussi, ou pas?
Alors, il n'a pas les petits pinceaux, qui sont vraiment une caractéristique du lynx. Il a une queue très touffue, qui ressemble un peu à une batte de baseball rayée. Sinon, effectivement, il est très furtif. Le chat forestier, c'est du concentré de sauvagerie.
Et ça veut dire quoi, alors, exactement?
Ça veut dire qu'il est très farouche, très... Déjà, si vous voulez, un chat domestique qui n'est pas d'accord, il est très difficile à tenir.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. En captivité, le chat sauvage, il vous faut des bons gros gants aussi.
Exactement, c'est un ressort qui crache, qui feule, etc.
Et qui griffe.
Qui griffe.
Certainement. On va évoquer rapidement ce qu'a lancé l'État en 2022, c'est-à-dire ce plan national d'action qui promettait de rétablir le lynx dans un état de conservation favorable. Est-ce que ce plan a réellement changé quelque chose? Il doit se terminer là, c'est ça, c'est la dernière année?
C'est ça. Oui. Changer quelque chose. Déjà, il y a des discussions en cours. On ne peut pas dire le contraire. Disons que ça avance jamais aussi vite que le souhaiterait le monde associatif, parce qu'il y a...
L'idée, c'était d'améliorer déjà les relations avec les activités humaines. Il y avait ça dans ce plan aussi.
Oui, sans doute. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec une grosse inertie et des décisions qui mettent beaucoup de temps à être prises. Ce qui fait que, par exemple, nous, on a été amenés à prendre sur nous de créer des panneaux pour tenter de lutter à notre façon contre les collisions routières en les proposant aux communes. Parce que malgré plusieurs années à avoir fait des propositions au service de l'État, on n'avait pas obtenu de suite. Et du coup, il nous a paru intéressant d'aller un petit peu plus vite, ce qui semble d'ailleurs inciter à une accélération des démarches du côté de l'État.
Ouais. Nathan Huvier, on parle des zones refuges aussi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut porter quelques espoirs pour ces animaux?
C'est un peu difficile à dire, mais en fait, si vous voulez, les zones refuges, quand on les nomme, c'est plus des zones en cœur de territoire des animaux. Et en fait, c'est des zones où... En fait, il faudrait essayer de les laisser tranquilles. C'est vraiment des zones où...
C'est ça que ça voudrait dire, dans l'idéal?
Ouais, dans l'idéal. Bah, en fait, toute faune sauvage, c'est l'idéal pour aider à la conservation, c'est de la laisser tranquille. Donc là, les zones de refuge des lynx, c'est vraiment des zones spécifiques où, par exemple, comme on évoquait tout à l'heure, le RUT, c'est des zones qui vont être essentielles, en fait, à chaque individu pour leurs activités, et donc voilà, c'est des zones qu'il faut qu'on essaye de protéger au maximum.
En fait, il faut se représenter que sur le territoire d'une femelle qui fait environ 150 hectares, il y a à peu près 4-5 hectares qui sont assimilables à de la zone refuge qui sont essentielles pour la mise bas, le marquage, le repos tranquille. Ouais. Et c'était une demande très forte de nombreuses associations au moment de l'élaboration du PNA d'obtenir la mise en place de zones refuge, que ce soit même, temporaire dans l'année, hein, au même titre que les arrêtés de protection de biotopes. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas été retenu parce qu'il y a eu un barrage du monde de la chasse. C'était incompatible avec les battues grand gibier.
Allez, on passe aux questions parce qu'elles sont nombreuses pour vous. On va écouter un premier message reçu sur l'application Radio France.
Bonjour Pierre, en Isère. J'ai cru apercevoir un lynx il y a une quinzaine d'années dans le Morvan. Et on m'a affirmé qu'il n'y en avait pas. Il y en a-t-il ailleurs que dans le Jura ? Merci.
Voilà la question de Pierre.
Oui, j'ai bien compris. Donc, ouais. Alors effectivement, actuellement, il y a au moins un individu dans le Morvan. Ça a été attesté récemment par piège photographique. Ouais. Le Morvan est, d'une façon générale, l'ouest du massif jurassien. Et c'est ce qu'on appelle les marges de colonisation. Donc il n'est pas exclu qu'il y a une dizaine d'années, un individu soit passé jusqu'au Morvan en utilisant les maigres continuités forestières. Malheureusement, l'avenir de ces individus isolés qui vont dans des territoires un peu lointains, il n'est pas très rose. Souvent, ils disparaissent. Et ça prend de nombreuses années avant qu'une population soit constituée.
Nicolas nous dit, il fait 10 degrés avec un grand soleil aujourd'hui dans le Haut-Bugey. Donc ça, c'est dans l'Ain, précisément dans le secteur où vous recherchez les petits.
Absolument.
Hein, dont la mère est décédée. Souhaitons, dit-il, que la météo aide les jeunes lynx orphelins. Et c'est ce que vous disiez, finalement, c'est le redoux qui pourrait leur donner un petit coup de pouce.
C'est le paramètre effectivement qui va jouer.
Ouais. Est-ce que le lynx peut s'attaquer aux sangliers, demande Anne dans un message, et est-ce que ça pourrait être un remède à la surpopulation des sangliers ?
Alors, malheureusement, non, parce que le lynx, il faut voir que c'est un individu d'une vingtaine de kilos. Un sanglier, ça dépasse, ça s'approche très souvent des 100 kilos. Et la technique de chasse du lynx, en fait, c'est l'égorgement. Donc, en fait, il va saisir sa proie au cou pour, en fait, l'étouffer. Et les sangliers ont une protection, une épaisseur de graisse beaucoup trop importante pour...
Donc on oublie, impossible.
Strangulation plus que l'égorgement.
Strangulation, j'ai perdu le mot, merci.
François demande, est-ce vrai que l'autre nom du lynx, c'est le loup cervier ?
Oui, c'est une appellation ancienne. On l'appelait comme ça dans les temps anciens, au Moyen-Âge et un peu après. On pensait aussi qu'il se perchait sur les arbres et qu'il sautait sur ses proies, qu'il faisait un trou à l'arrière de la tête pour aspirer la cervelle. On sait maintenant que c'est pas le cas.
Ouais. Marie-Thérèse nous dit, j'ai eu le plaisir de croiser deux lynx dans les Vosges. Premier vu deux fois en forêt domaniale de Darney, un autre devant chez moi. J'habite en pleine nature, contre un étang et une rivière, le Madon. Et une belle histoire que j'aimerais raconter oralement. Elle a beaucoup de chance quand même. Hein. Deux fois... dans une ville.
Tout à fait, c'est pas mal. Bon, alors, elle habite peut-être dans un site privilégié.
En tout cas, elle dit que c'est une zone calme, dit-elle. Julien nous dit, je suis berger, j'ai des brebis qui ont été tuées, je suppose par le lynx. Une fois égorgé, de quelle façon le lynx mange-t-il ses proies ?
Alors, déjà, ce que je peux dire à Julien, c'est qu'il devrait, en pareil cas, immédiatement appeler l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui fait un constat de dommage et qui pourra identifier de façon certaine l'auteur du dégât. Ce qu'on peut dire, c'est que le lynx donc tue par strangulation, il étouffe, il écrase la trachée, et très souvent, il n'y a pas d'effusion de sang au niveau du cou. Et ensuite, comme il a une mâchoire assez faible, comme je le disais, contrairement aux canidés, il ne peut entamer ses proies que par l'entrejambe, donc là où la peau est la plus fine. Et il va donc commencer par consommer les gigots, en retournant la peau. Donc si les brebis ont été consommées au niveau de la tête, des oreilles, des épaules, ça évoquerait plutôt des canidés.
Dernier message d'Anne, qui a eu la grande surprise de croiser un lynx dans le parc de Yosemite aux États-Unis. Je photographie une cascade, je l'ai vu passer, magnifique. J'ai été pétrifié de surprise et de joie. Il a traversé tranquillement le chemin et ce fut une magnifique vision. J'en garde un émouvant souvenir. Voilà pour ce témoignage. Elle demande si c'est la même espèce dans le Jura d'ailleurs.
Vraisemblablement, c'est un bobcat, donc le lynx roux, qui est légèrement plus petit et davantage moucheté, qui est plus proche du chat forestier.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Nathan Huvier et Gilles Moine. Pour ceux qui souhaitent vous donner un coup de main, le centre Athénas a un site internet. On peut aller pour avoir toutes les informations nécessaires.
Et un numéro d'urgence.
Merci beaucoup à tous les deux. On se quitte avec le fil de l'histoire. C'est Stéphanie Duncan et merci à Joël Levert qui a préparé aujourd'hui ce dossier.